On a une matinée particulière ce matin, comme que David nous l'a présenté. On a un baptême et c'est David Boisvert. David, je t'invite à t'avancer. On va demander à David qu'il nous raconte qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Comment est-ce que Dieu est venu transformer sa vie pour qu'il puisse aujourd'hui dire qu'il est son enfant et qu'il est baptisé, ce pourquoi il veut être baptisé. Juste avant que je donne la parole à David, peut-être que c'est une première occasion pour vous où vous venez ici puis vous voyez un baptême, vous entendez parler de ça. Je vais juste vous donner quelques explications. Vous pourriez peut-être vous poser la question, qui devrait être baptisé? Les Écritures, notre référence, c'est toujours les Écritures. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers sa parole? Et les Écritures nous disent que tous ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui ont été, qui ont placé leur foi en Jésus, en ce sacrifice, qui ont cru qu'il leur donne la vie, ben ces gens qui deviennent des enfants de Dieu, Dieu demande qu'ils soient baptisés. Alors, tous ceux qui acceptent la parole, tous ceux qui sont sauvés, ils sont baptisés. Maintenant, pourquoi? Ben Dieu nous le demande. C'est premièrement un pas d'obéissance. Dieu nous demande de lui obéir et de s'identifier avec lui par le baptême. Je vais vous expliquer un petit peu plus tantôt c'est quoi. Mais c'est aussi un exemple que Jésus nous a donné. Jésus lui-même a été baptisé et nous demande nous-mêmes aussi de suivre son exemple en se faisant baptiser. Et le but du baptême, David, quand il va se faire baptiser tantôt, il n'y a pas le ciel qui va s'ouvrir et puis un faisceau lumineux qui va tomber sur lui. En tout cas, je ne sais pas, là, mais ça serait surprenant. Mais le ciel, c'est le baptême n'est pas là pour ouvrir le ciel pour qu'on puisse donner un passé à David pour aller au ciel. Le baptême, c'est l'occasion de, comme je disais tantôt, d'être identifié à Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. Il a été ressuscité aussi. Et quand on est baptisé, on s'identifie à ce que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire que quand on va descendre David dans l'eau, c'est l'image que Jésus est mort pour nos péchés, que David a accueilli le fait que Jésus est mort pour lui. Et que lui aussi, sa vie passée, c'est comme s'il la considère comme morte pour ressortir de l'eau et avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Tout cela est une image de l'œuvre de Dieu dans la vie de David, dans l'œuvre de nos vies, de Dieu dans nos vies. Alors, peut-être que vous avez déjà vu des baptêmes qu'on pouvait simplement faire quelques gouttes, ou pourquoi est-ce qu'on va immerger complètement? Mais le sens même du mot « baptiser », littéralement, veut dire « immerger ». Et quand Jésus s'est fait baptiser, on voit clairement le texte que Jésus a sorti de l'eau après un certain temps. Et c'est la pratique que l'on fait, puisque c'est la pratique qui nous est donnée aussi, et ça garde le sens de pourquoi est-ce qu'on est immergé et puis après ça ressorti de l'eau. Quand est-ce que je devrais être baptisé? Si tu es un enfant de Dieu, tu sais que Dieu t'a sauvé, que tu lui appartiens, c'est pour toi. C'est pour David. David a décidé de faire cette obéissance-là, il a décidé de se faire baptiser. Et alors, si tu es un enfant de Dieu, tu as placé ta foi en Jésus-Christ, le baptême est pour toi. Et tu devrais te faire baptiser dès que tu en as l'opportunité. Et on aimerait régulièrement donner cette opportunité-là, que Serge fait des ateliers de baptême. Il y en aura un prochain qui sera recommencé probablement au mois de mars. Alors, si vous avez cet intérêt-là, vous pouvez venir me voir, moi ou Serge. Maintenant, David, on aimerait entendre qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie pour qu'aujourd'hui tu puisses dire que tu es son enfant.
Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle David Boisvert, j'ai 22 ans, et je suis originaire de Mont-Laurier où j'ai grandi dans une famille chrétienne aux côtés de mon frère plus jeune. Je suis arrivé à Québec en novembre 2009 pour venir travailler à la base militaire de Valcartier comme technicien en armement. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir enfin vous partager ce que Jésus a fait dans ma vie, de comment il l'a transformé. Le fait que Dieu m'ait donné des parents qui l'aiment m'a permis d'avoir une bonne éducation spirituelle. Dès mon jeune âge, il m'a envoyé à l'école du dimanche, ce qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur Jésus et sur sa vie. J'ai aussi fréquenté le camp des Bouleaux, à quelques reprises, un camp chrétien. C'est à cet endroit que j'ai vraiment pris connaissance de Dieu pour la première fois. Durant le mois de juillet 1997, pendant une soirée au camp, le moniteur nous a demandé de prendre un bout de bois et de le jeter au feu en symbole de remettre nos péchés à Dieu. Lorsque j'ai jeté mon bâton, j'ai senti la présence de Dieu pour la première fois et j'ai compris que Dieu existait vraiment. Par contre, il manquait quelque chose. Oui, je croyais en Dieu et j'avais compris qu'il était là, mais je ne lui avais pas donné complètement ma vie. Comme le dit Romains 8:9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. En grandissant, je fréquente l'Église sans me poser de questions. J'y vais tout simplement parce que mes parents y vont. La semaine, je suis un garçon différent que le dimanche. N'ayant aucun ami chrétien, Dieu n'est jamais un sujet de discussion auprès de mes amis d'école. Ma vie continue sans but, sans réalité. À l'âge de 19 ans, j'entre dans les Forces armées canadiennes. À ce moment, dû à l'entraînement du cours de recrue, je cesse de fréquenter une assemblée. Je me mêle à mes coéquipiers et j'adopte de mauvaises habitudes. Par exemple, je commence à blasphémer et à fréquenter de mauvais endroits. Mon cours de recrue terminé, j'ai été envoyé à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. À partir de ce moment-là, j'aurais pu recommencer à fréquenter une assemblée, mais je n'y suis jamais allé. Je me disais que les prédications étaient en anglais ou que je n'avais tout simplement pas besoin d'y aller. Bref, j'essayais de me trouver des excuses pour pas y aller, pour me justifier. Ensuite, j'ai été à Borden, en Ontario, pour mon cours de métier. Là-bas, c'était la même histoire. Ce n'est seulement qu'à mon arrivée à Québec que tout a commencé. Mes parents m'ont demandé si je voulais me trouver une église, étant donné que je m'étais trouvé un endroit fixe où j'allais habiter pendant les 2-3 prochaines années. Je me suis posé la question, et oui, ça commençait à me manquer. À ce moment-là, la fréquentation d'une assemblée commençait à me manquer. Ils m'ont donc mis en contact avec un ami de longue date, Pierre-Alain Lefrançois. C'est vraiment lui que Dieu a utilisé pour me mettre sur le bon chemin. Nous avons commencé à nous rencontrer peu après mon arrivée à Québec. Je lui ai fait part de ma volonté à me chercher une église. Il était heureux de mon intention, mais en me parlant et en me posant certaines questions, nous avons bien vu qu'il me manquait quelque chose dans ma vie, malgré même le fait que je me croyais personnellement sauvé durant toute ma jeunesse. Il m'a donc proposé de commencer un cours, l'ABC du disciple, ce que j'ai accepté. J'ai commencé à faire une tournée des églises de Québec en demandant à Dieu laquelle serait la mieux pour moi. Un soir d'avril, suite à quelques événements dans ma vie, j'étais complètement déprimé et je mettais la faute sur Dieu. Je me demandais, « Seigneur, pourquoi tout ça arrive? Pourquoi tu ne me donnes pas ce que je veux? Pourquoi autant d'épreuves? » Avec de grands efforts, j'ai écrit à Pierre-Alain et je lui ai expliqué ce que je ressentais. Il m'a répondu que nous allions en discuter lors de notre prochaine rencontre qui était le lendemain, le fameux 19 avril 2010. Après mon travail, je suis donc rentré chez lui. Sachant que j'étais au bout du rouleau, il a demandé si son épouse André pouvait assister à notre rencontre pour nous accompagner. C'est en pleurant que j'ai écouté mes deux amis prier pour moi. Ils m'ont réconforté en me soulignant de ne pas oublier que c'était Dieu seul qui donnait le vrai réconfort. En rentrant chez moi, je me suis isolé et j'ai prié seul à seul avec Dieu. C'est à ce moment précis que je lui ai tout donné et que je lui ai dit que je voulais maintenant lui faire pleinement confiance et lui obéir. J'ai pris à la lettre ce qui est écrit dans 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je me sentais maintenant libre et tellement soulagé. Comme le mentionne Éphésiens 1:13, j'avais maintenant le Saint-Esprit en moi. En lui, vous aussi, vous avez, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. À partir de ce moment-là, tout était là. Je croyais en lui, je lui avais remis mes péchés et je lui avais donné ma vie. J'étais réellement sauvé et j'étais une nouvelle personne. 2 Corinthiens 5:17 mentionne « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Du jour au lendemain, ma vie s'est transformée. Dieu m'a donné la paix intérieure et le goût de le partager aux autres. J'ai commencé à prendre conscience des péchés dans ma vie et j'ai cessé mes mauvaises habitudes. J'ai trouvé une église et des amis chrétiens. Mm-hmm. Aujourd'hui, je veux lui obéir. Matthieu 28, 19 dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux donc, moi aussi, faire ce que Dieu demande et faire ce pas d'obéissance. » Maintenant, si toi aussi tu es ici et que tu cherches à ta vie un sens, un but, que ça va mal et que tu ne trouves pas de porte de sortie, comme ce que je vivais avant le 19 avril 2010, je t'invite à te confier en Dieu et à te décharger toi aussi sur lui. Il suffit de lire dans sa parole pour se rendre compte que Dieu nous tend la main et qu'il n'attend que ce que nous lui attrapons. Il veut que l'on se confie en lui. Dans Proverbe 16, 20, il est écrit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Ésaïe 30, 18 dit, « L'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. » Gloire à Dieu. Merci.
Amen. Merci, David. C'est un très beau témoignage de voir comment est-ce que Dieu s'est révélé à toi, comment est-ce que Dieu est venu te chercher. Et puis, gloire à Dieu même aussi pour un homme comme Pierre-Alain qui s'est montré disponible pour communiquer l'Évangile. C'est un exemple pour chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier, pour qu'on puisse regarder ensemble ce merveilleux message, justement, que David vient de faire référence de ce que Dieu nous communique. Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi pour premièrement te louer et te remettre toute la gloire pour ce qu'on vient d'entendre de ce que tu as fait dans la vie de David. Dieu, c'est merveilleux que d'entendre que tu es vivant, que tu es présent, que tu entends nos souffrances, nos douleurs, comme tu as entendu celle de David. Et Dieu, je veux te louer pour la façon que tu te révèles à nous. On veut te placer ce temps qui est devant nous, justement, pour qu'on puisse être sensible à toi. Que par ton esprit, que tu viennes toucher nos vies, que tu viennes toucher nos cœurs et que tu viennes te révéler à nous. Que tu continues de transformer nos vies. Qu'on puisse te découvrir tel que tu es. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Vous savez, il y a une fête demain qui s'en vient, qu'on appelle la Saint-Valentin. Et excluons de la Saint-Valentin tout ce qui est mondain, tout ce qui tourne autour, qu'on peut rajouter. Et prenons l'essence qu'il y a derrière cette fête-là qu'on appelle l'amour. Est-ce que Dieu est contre l'amour? Est-ce que Dieu est pour l'amour? Bien, évidemment qu'il est pour l'amour. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu comprend c'est quoi l'amour? Est-ce que Dieu comprend c'est quoi que d'aimer un être proche, comme un enfant? Est-ce que Dieu comprend c'est quoi l'amour, comme d'aimer un être proche, comme un père, par exemple? Est-ce que Dieu comprend c'est quoi l'amour qu'on peut avoir même dans des amitiés, ou même l'amour conjugal? Je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Je vais faire une citation. Cantique des Cantiques. Chapitre 5. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Il pousse loin quand même, hein? Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Il avait traversé le jardin pour se rendre jusqu'à elle. Et là, elle répond, j'ai ôté ma tuyau. Oh, on va arrêter là. Oui. Ça, c'est l'amour conjugal. Puis, je viens de lire ça dans la Bible. Hein, c'est Dieu qui nous a communiqué ces belles vérités. Les belles vérités de ce que c'est l'amour, même l'amour conjugal, où on a un livre complet de Cantique des Cantiques, où Dieu nous révèle la passion amoureuse qui peut exister même dans l'amour conjugal. C'est une belle chose. Est-ce que Dieu comprend l'amour? Mais oui, il comprend c'est quoi l'amour. Je vais même aller plus loin. 1 Jean nous dit, je vais vous le citer, 1 Jean 4, 7 nous dit que l'amour vient de Dieu et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu comprend-tu c'est quoi l'amour? C'est lui l'amour. Quand que je connais Dieu, je connais c'est quoi l'amour. Il y a toutes sortes de peines, toutes sortes de souffrances associées à l'amour. Mais Dieu, ce qui me communique, ce que Dieu veut te communiquer ce matin, c'est qu'il t'aime. Dieu t'aime. C'est ce que tu dois retenir ce matin. Dieu, il t'aime d'une façon particulière. Dieu, il comprend c'est quoi l'amour. Dieu, il nous a laissé dans sa parole avec la langue grecque. En français, on est un peu mal pris hein, pour expliquer c'est quoi l'amour. On a un mot qui est « amour ». En anglais, il y en a deux, on va dire « like »,« love ». Puis en grec, ben c'est intéressant parce qu'il y en a plus qu'un, il y en a même quatre. Où on parlait d'un amour, par exemple, « agapé », « agapé ». Un amour, c'est un sens peut-être sacrificiel, un amour qui concerne vraiment un attachement proche. Un amour « filéo », l'amour qui est filial, hein, l'amour amical. L'amour « eros », qui est un amour « passion », un peu comme on vient de voir tantôt dans le Cantique des Cantiques. L'amour « storgé », qui est un amour d'affection. Dieu est amour. Dieu comprend c'est quoi l'amour. Et Dieu voudrait que tu comprennes ce matin qu'il t'aime. Que Dieu t'aime. S'il y a quelqu'un qui t'aime, s'il y a quelqu'un qui aime ton âme, toute ta personne, c'est premièrement Dieu. Et Dieu t'aime. La première chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin, c'est que Dieu t'aime malgré toi. Dieu t'aime malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais. Peut-être que présentement, je pourrais dire, ben, je suis un pécheur. Dieu peut pas m'aimer pour ça. Je fais du mal constamment. Dieu t'aime. Je suis laid. Dieu m'aime. Je suis peut-être désobéissant. Je suis peut-être un menteur, un voleur, un trompeur. Je suis peut-être jaloux, orgueilleux. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Malgré ces comportements que tu peux avoir. Peut-être que tu vas dire, oui, mais je suis beau, moi. Je suis obéissant. Je fais le bien. Je fais les bonnes choses. Dieu t'aime. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que tu ne mérites pas cet amour-là. Même si je suis le plus grand des pécheurs, même si j'étais le premier parmi les pécheurs, c'est-à-dire le plus grand, Dieu m'aime. Puis même si tu es le moins pire, des pécheurs. Dieu t'aime. La Bible dit, tournez avec moi dans Romains 3 si vous avez une Bible proche. Si vous en avez une, vous pouvez l'attendre à quelqu'un à côté de vous qui peut-être en a pas. Pour que vous puissiez voir vraiment c'est quoi que Dieu dit. Romains 3, 10, c'est écrit, il n'y a pas de juste. Attends un petit peu, j'en suis un, moi. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je suis pécheur, et malgré ça, Dieu m'aime. Peut-être que je suis pas si pire que ça, mais Dieu m'aime quand même, mais je dois comprendre que je suis séparé de Dieu. Le péché fait en sorte qu'on est séparé de Dieu et qu'on a besoin de lui, que Dieu veut venir nous chercher là où on est et qu'il nous envoie une carte d'amour. Peut-être comme vous allez faire demain, peu importe à qui. Et cette carte, qui est les Écritures qu'on pourrait avoir, ce que Dieu nous dit, c'est « Je t'aime. » Dieu m'aime et quand je rouvre sa parole, cette carte-là qui est illustrée parce que ce que la Bible est, c'est que Dieu me communique qu'il m'aime, mais que je ne mérite pas cet amour-là. Et à cause de mon péché, je suis séparé de lui. À cause du péché, je suis séparé de Dieu. Éphésiens 2, je vais faire quelques citations. Éphésiens 2, versets 8 et 9, ça dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu m'aime plus? Dieu t'aime malgré toi. Il n'y a aucune bonne œuvre que tu peux faire pour que Dieu t'accepte, pour que Dieu t'aime. Tu dois premièrement réaliser que tu es séparé de lui. Que si je suis séparé de Dieu à cause de mes péchés, que Dieu m'aime malgré ça et qu'il veut me donner sa grâce pour que je puisse être sauvé. Titre 3:5, je vais faire une autre référence que je vais juste vous citer. Dieu sauve non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Cette carte que Dieu est en train de te donner ce matin, il est en train de dire, j'ai quelque chose de plate à te dire. Je t'aime, puis ça c'est bon et c'est beau. Mais est-ce que tu comprends que tu es séparé de moi à cause du péché? Est-ce que tu comprends que on peut pas avoir de relation ensemble parce que je peux pas aimer le péché? Puis je t'aime, puis je veux qu'on ait une relation ensemble, mais tu es séparé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu m'aime malgré mes péchés. Mais il faut premièrement que je reconnaisse que je suis séparé de lui. Tournez avec moi dans 1 Jean, chapitre 4. La première chose que je voulais qu'on retienne ensemble, c'est que Dieu nous aime malgré ce que l'on est. Mais tout en considérant qu'on est séparé de lui. Mais la deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que Dieu t'aime, puis il prend les devants. Il prend les devants pour te communiquer son amour. Regardez 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Est-ce que Dieu m'a montré qu'il m'aime? Est-ce que Dieu m'a prouvé son amour? La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si présentement tu dis, oui, je reconnais que j'entends ce que tu dis, David, Dieu m'aime, c'est ce que la Bible me dit. Puis oui, je reconnais que je suis séparé de lui. Mais Dieu t'a aimé, même au moment le plus sombre de ta vie. Et ce que Dieu a fait pour te le prouver, pour que tu le saches, c'est qu'il a donné sa vie pour toi, même au moment où ce que tu étais au plus sombre de ta vie. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer à quelqu'un qu'on l'aime? Comment est-ce qu'on fait pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime? Hein? Parce qu'on peut ne pas se contenter uniquement que de paroles, mais des fois, on dirait qu'on a besoin d'action. C'est ça que ma femme me dit. Hein? On peut offrir, en tout cas dans mon cas, quand on m'offre une boîte de chocolat, là, je le sais. Là, je sais que la personne m'aime. Hein, c'est un classique, on dit, on offre des chocolats aux gens, ou on offre un petit présent ou quelque chose pour communiquer à l'être aimé, que ce soit un parent ou peu importe, qu'on l'aime. Et puis, on lui donne un présent. Par exemple, à Noël ou bien à une fête quelconque, une fête d'anniversaire. On veut prouver à la personne que je t'aime, puis pas juste en parole. Mais ça, je t'aime, puis ça m'a coûté de quoi? Puis je veux te le prouver, je veux te le montrer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour te le prouver? Depuis tantôt, je dis que Dieu nous aime. Mais Dieu l'a prouvé. Dieu a donné le plus grand cadeau que tu peux pas recevoir de toute ta vie. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que ce que Dieu a fait, que d'avoir donné ce qu'il lui avait de plus cher. Est-ce que Dieu comprend c'est quoi l'amour? Absolument. Dieu aime son Fils. Le Père aime le Fils. Et ça, c'est clair. Mais le Père, il a donné son Fils unique pour toi. Voilà comment est-ce qu'il l'a prouvé. Et c'est pas simplement contenté de dire, hey, je vous aime. Mais il a prouvé son amour envers nous. En ce qu'on pouvait être le plus sombre dans nos vies, Dieu lui dit, je t'aime. Puis je te donne mon Fils pour toi. Le Fils a donné sa vie pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il y avait de plus cher pour t'avoir, pour avoir cette relation-là avec toi. Est-ce que Dieu te l'a prouvé? On vient de lire 1 Jean 4 et pour le relire, il dit « L'amour de Dieu a été manifesté. Elle a été prouvée, verset 9, envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. » Afin que nous vivions dans le monde. Puis cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu m'aime? Parce que je l'aime. Dieu ne réagit pas comme ça. Dieu y agit envers moi. Est-ce que Dieu m'aime parce que je lui fais du bien, parce que je fais des bonnes actions, parce que je l'ai aimé le premier? C'est pas ça. Ce que Dieu me dit, c'est que il m'a aimé le premier. Il t'a aimé le premier. Il t'a donné son Fils pour que tu puisses connaître c'est quoi l'amour. Parce que si tu n'avais pas goûté cet amour que Dieu veut te donner, tu ne saurais pas c'est quoi d'aimer. Parce que c'est Dieu qui est amour. C'est Dieu qui nous montre comment aimer. C'est Dieu qui nous montre c'est quoi le vrai amour et Dieu te l'a prouvé. Ce que Dieu veut faire, c'est te pardonner de tes péchés. Dieu m'aime malgré moi, puis ce qu'il me dit dans cette lettre d'amour, c'est je t'aime, mais t'es séparé de moi, puis je veux une relation avec toi. Mais ce que Dieu me dit, c'est je t'ai prouvé mon amour, parce que je t'ai donné mon Fils pour que mon Fils, par lui, tu puisses avoir le pardon de tes péchés. Parce qu'il est mort pour tes péchés. Pourquoi Jésus est mort à la croix? Jésus a vécu sa vie sur la terre sans faire de péché. Il a mené une vie parfaite. Et il est mort sur la croix, pas parce qu'il a échoué le plan. Au contraire, quand il était sur la croix, il a dit, « Tout est accompli. » Parce qu'il était prêt maintenant à mourir pour tes péchés, à prendre tous tes péchés. Et c'est comme ça qu'il te l'a prouvé. Dieu avait donné une promesse à toute l'humanité, à chacun d'entre nous, qu'un jour il enverrait un libérateur, et ça c'est Jésus. Et sans lui, on ne pouvait pas venir à lui. 1 Timothée 2,5, je vais vous citer, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Comment je peux avoir cette relation-là avec Dieu? Comment je peux vivre cette intimité-là avec le Dieu unique? Entre moi et Dieu, mais il y a un seul médiateur. Et ça, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour toi. Dieu t'aime malgré toi. Malgré les œuvres que tu as faites, mais il veut que tu saches que tu es séparé de lui. Puis Dieu t'aime, puis il te l'a prouvé en te donnant tout ce que tu as besoin pour être pardonné. Maintenant, il manque quand même quelque chose. Cette relation-là, cette union-là avec Dieu, où Dieu te manifeste son amour, tu as besoin de l'accueillir. L'amour, c'est quelque chose de réciproque. Dieu m'aime, il me l'a prouvé. Mais Dieu m'aime. Pour combien de temps? Dieu veut t'aimer d'un amour éternel. Pour toujours. Comment est-ce qu'on fait pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime régulièrement? On peut peut-être donner une boîte de chocolat, comme je disais tantôt, mais la boîte de chocolat, elle, en tout cas chez nous, elle passe vite. Hein? On peut donner des fleurs. Vous savez, c'est quoi le problème avec les fleurs? C'est qu'il faut toujours recommencer. Faut toujours en racheter. Là, je n'ai acheté une pour de bon. J'ai dit, tiens, c'est réglé, on n'en parle plus, OK? Mais non, c'est pas vrai. Dieu nous aime d'un amour éternel. Hein, on peut renouveler ce geste-là régulièrement envers une personne qu'on aime, envers un membre de la famille, un être cher, peu importe, et lui d'apporter ce cadeau, puis apporter cette image d'une rose où on peut lui donner. La rose va se faner, puis il va falloir renouveler à un moment donné ce geste-là en donnant la rose pour vous montrer cet amour qui continue, qui se perpétue. Mais Dieu a prouvé qu'il t'aime. Puis Dieu, il veut te le rappeler à chaque jour. Dieu, il va t'aimer à chaque jour de ta vie. Mais ce que Dieu veut te donner premièrement, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Ce que Dieu veut vivre avec toi, c'est une relation intime. Et tu dois accepter ce pardon, cette preuve d'amour qu'il a eue pour toi. Tu dois dire, c'est vrai Dieu, c'est vrai je suis un pécheur. C'est vrai j'avais besoin d'un sacrifice, j'avais besoin que tu prennes ma place. Parce qu'on peut pas aller au ciel par nos propres œuvres, c'est simplement Dieu qui a pris les premiers pas. Mais je dois accepter cet amour-là maintenant. Je dois placer ma foi en Dieu. Dieu nous aime au point d'avoir tout fait pour que nous soyons réconciliés avec lui. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu t'offre la vie éternelle, un amour particulier puis d'une relation particulière aussi. Dieu veut que tu lui fasses confiance, puis que tu te repentes de tes péchés. Dire, Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Puis que tu places ta confiance, ta foi en lui. Tourne avec moi dans un dernier texte que j'aimerais vous lire. Romains 10. Dieu t'aime, mais dans une relation réconciliée avec lui, Dieu te donne la vie éternelle. Dieu veut t'aimer de cet amour éternel et d'une présence avec lui pour l'éternité. Ce que Dieu veut te donner, c'est de la confiance pour que tu puisses la placer en lui et dire, Dieu, je te demande pardon pour mes péchés. Puis ce que Dieu veut te donner, c'est de l'espérance aussi. De l'espérance que tu seras toujours en relation avec lui. Qu'un Dieu est en train de te préparer une place et que tu vas vivre dans sa présence, de ce Dieu, de ce Créateur, du Père, dans sa présence immédiate pour que tu puisses vivre avec lui pour toujours, de celui qui t'aime. Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Jésus, c'est vrai, je crois que tu es mort pour mes péchés. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que tu veux être sauvé ce matin? Sauvé de tes péchés, sauvé de cette condamnation qui pèse sur toi à cause de tes péchés. Dieu t'aime. Est-ce que Dieu veut que tu ailles en enfer? Non! Dieu est juste. Dieu est saint. Puis oui, la Bible nous dit que l'enfer existe. Mais Dieu nous dit clairement qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que tu acceptes son amour. Dieu veut que tu le confesses et que tu crois, que tu places ta foi en lui. Verset 10, je vais continuer, parce que en croyant du cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Est-ce que c'est en faisant le bien? C'est en croyant du cœur que la parole de Dieu nous dit. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Regardez verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. Et il veut que tu aies cette vie avec lui qu'il faut que tu accueilles. Dieu, à tous les jours de ta vie avec lui, veut te communiquer d'une relation particulière avec lui, qui t'aime à chaque jour. Paul, il disait, j'aurais pu le résumer, mais je ne veux pas le résumer parce qu'il y a une insistance. Je vais vous le citer. Romains 8 dit, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni les choses qui sont dans la vie, toutes les circonstances plates, ni les anges, ni les dominations, quelles que soient les choses dans le ciel qui sembleraient être puissants, ni le présent, ni l'avenir, il me semble que j'ai un avenir ténébreux, mais ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Est-ce que vous croyez ça? J'aurais pu dire rien. Rien nous sépare de l'amour de Dieu. Puis je voulais pas le résumer aussi platement que ça. Il y a rien. La profondeur, la hauteur, ni les anges, ni l'avenir, ni le présent. Rien. Peut-être que tu peux vivre des circonstances plates présentement, difficiles. Peut-être que tu n'aimes pas ce qui est en train de se produire. Puis le danger qui te guette, c'est de dire, peut-être que dans le fond, c'est parce que Dieu m'aime pas. Dieu m'aime plus. Dieu m'a oublié. Aie l'assurance qu'il n'y a rien qui te sépare de l'amour de Dieu. Puis cet amour, pour le goûter, c'est premièrement d'être réconcilié avec lui. Où tu reconnais que tu es séparé d'avec lui, d'avec Dieu. Où tu reconnais que Dieu l'a prouvé son amour en t'envoyant son Fils, puis qu'il a tout donné en place pour que tu puisses être sauvé. Puis que tu puisses maintenant accepter ce pardon-là. Simplement en lui confessant. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, qu'on baisse nos têtes. Je veux simplement faire une prière, dire une prière que tu peux prendre dans ton cœur. Il n'y a rien de magique dans ma prière. Fermons nos yeux, baissons nos têtes. Dieu, c'est une personne. On s'adresse à Dieu comme à une personne. Dieu, j'ai entendu ce matin ce que tu me dis. Tu m'aimes. Malgré mes mauvais coups, malgré mes bons coups, tu me dis que tu m'aimes. Tu me dis aussi dans ton amour que je suis pécheur et séparé de toi. Et c'est la chose, Dieu, qui t'attriste, que l'on soit séparé de toi. Dieu, je reconnais ça. Je reconnais que sans toi, je suis perdu. Je reconnais que sans toi, je vais constamment juste continuer dans ce que j'ai l'habitude de faire. Continuer de faire le péché et de demeurer séparé de toi. Dieu, j'ai entendu aussi que tu m'aimes. Tu t'es pas contenté de simplement me le dire, mais tu me l'as prouvé. En me donnant ton Fils unique. Pour que je croie en toi. Pour que je périsse point. Pour que je puisse avoir la vie éternelle. Je crois ça, Dieu. Je crois que c'est pour moi que tu es mort. Je crois que c'est mes péchés que tu voulais prendre. Tu m'as prouvé ton amour, Dieu. Et je le crois. Et Dieu, tu me dis que tu m'aimes d'un amour que tu veux me montrer pour l'éternité. Que tu veux que je sois réconcilié avec toi, que j'ai cette vie éternelle pour l'éternité avec toi. Et ce que je veux te dire, Dieu, maintenant, c'est que je te demande pardon pour mes péchés. Parce que je veux accueillir ton amour. Je crois que tu es mort pour mes péchés et maintenant je veux que tu me fasses devenir ton enfant. Je veux connaître l'amour réel d'un Père qui m'aime. Malgré ce que je peux faire, tu es mon Père céleste, Dieu, et je veux accueillir justement cet amour et t'appartenir pour toujours. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie ces choses. Amen. J'aimerais vous encourager que si vous avez fait cette prière, si tu as accueilli l'amour de Dieu pour toi ce matin, dis-le à quelqu'un avec qui tu es venu, confesse-le à quelqu'un. Dis, j'ai accueilli l'amour de Dieu pour ma vie aujourd'hui. Je me suis repenti de mes péchés, j'ai placé ma foi en Dieu. Viens me le dire si tu es peut-être trop gêné d'aller le dire à quelqu'un d'autre. Tu peux venir m'en parler, je serai content. Je vais laisser l'équipe musicale continuer.